ce que chaque citoyen a de droits et des devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine « Droits et citoyens ». Mieux connaître vos droits pour bien les défendre. Mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30. Tous les jeudis à 13h30.
Bien, dans votre magazine de la vie au quotidien, aujourd'hui, nous parlons de la corruption. La Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO, et le réseau des parlementaires africains contre la corruption ont lancé dernièrement une campagne anti-corruption en RDC. Et ces organisations ont recensé plusieurs projets tirés au hasard, évalués à 1,335 milliards de dollars. En principe, tous ces projets devraient améliorer les conditions de vie des citoyens congolais, mais cela est loin d'être le cas, estiment les responsables, les animateurs de ces organisations. Alors, les gestionnaires de ces projets sont appelés à justifier l'utilisation des fonds alloués à ces différents programmes ou projets financés par l'État congolais. On en parle aujourd'hui avec M. Ernest Imparero, qui est le secrétaire exécutif de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption. M. Ernest, encore une fois, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à lancer cette campagne anti-corruption?
Effectivement, ce qui nous a motivé, c'est que nous avons constaté pendant les 10 dernières années que les gestionnaires, que ce soit les gestionnaires politiques, les gestionnaires administratifs, ne rendaient absolument compte à personne. Avec l'alternance au niveau du sommet de l'État, nous avions jugé bon à ce que tous ces gestionnaires-là puissent venir rendre compte. C'est ainsi que, ensemble, la LICOCO, ensemble avec la PNAC, nous avions analysé certains projets et nous avons tiré 13 projets les plus représentatifs. Mmh. Et parmi ces 13 projets, nous avons mis dans un document, et c'est ce document-là que nous avions publié pour effectivement demander aux citoyens à ce qu'ils puissent faire pression à tous ces gestionnaires, que ce soit des gestionnaires politiques ou des gestionnaires administratifs, afin qu'ils viennent rendre compte. Pourquoi? Parce que ces projets, normalement, devraient booster l'économie de la RDC, mm-hmm. devraient créer de l'emploi, devraient diminuer la pauvreté, devraient permettre à ce que il y a circulation des biens et des personnes, mais malheureusement, on constate que ces projets n'ont pas donné de résultats escomptés.
Alors, ces personnes, vous les appelez à rendre compte, où est-ce qu'ils doivent se rendre, où est-ce qu'ils doivent aller rendre compte, voilà.
Effectivement, l'initiative était prévue qu'on puisse publier les documents auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis en congrès extraordinaire lors de la présentation de la politique gouvernementale du Premier ministre. Mmh. Mais nous avions été pris de court parce que les documents étaient sortis avant la session extraordinaire du Parlement. Et c'est à travers ce Parlement qu'il y aura, parce qu'on a travaillé avec APNAC. APNAC devrait insister pour que le Parlement puisse mettre en place une commission. Et c'est cette commission-là qui pourra interpeller chaque gestionnaire pour les attendre afin qu'ils donnent, qui disent aux députés ou aux sénateurs comment est-ce que l'argent a été géré. C'est à travers cette commission que le reste pourra suivre.
Alors, parlez-nous, est-ce que vous pouvez énumérer ces 13 projets qui ont été ciblés par rapport à cette campagne de lutte anti-corruption?
Effectivement, nous avions ciblé par exemple la campagne agricole. Comme vous savez, en 2011, si je ne me trompe pas, avec l'arrivée du Premier ministre Matata, donc avant d'abord 2011, en 2010, mmh. il y avait un projet de campagne agricole pour booster les grandes villes de la RDC par des denrées alimentaires congolaises. Le projet a été pris en charge. On a commandé des tracteurs. Ça, c'est avant 2011, avant les élections 2010.
Mmh. Comment s'appelait ce projet-là?
C'était la campagne agricole.
D'accord.
Et on a acheté les tracteurs, les équipements. Après les élections de 2011, Matata arrive au pouvoir comme Premier ministre. Il continue avec cette politique de la campagne agricole.
Avec le projet Bukangalonzo?
Non, pas
non,
encore.
Pas encore. Oui. D'accord.
Il faut acheter des semences. On va confier à Beseco la gestion fiduciaire de ces projets-là. ils vont sélectionner les structures qui vont mettre en œuvre ces projets, ils vont acheter des équipements agricoles, ils vont acheter des semences, ils vont acheter des tracteurs. Mais en 2012 déjà, les gouverneurs des provinces vont se plaindre pour dire, écoutez, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'impact. Ils vont, dans une réunion, dans une conférence des gouverneurs entre les gouverneurs des provinces et les gouverneurs et les chefs de l'État, les gouverneurs vont faire pression à l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, pour que la campagne agricole soit prise en charge par les provinces. Et c'est 2 millions qui ont été donnés.
Mais il n'y a pas eu de résultats.
Il n'y en a pas jusqu'aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut nous montrer un seul tracteur?
Voilà, à part cette campagne-là, quels sont les autres projets?
Il y a par exemple, en 2012 toujours, l'ONATRA est en faillite. L'ONATRA est en faillite, le gouvernement crée une redevance, qu'on appelle redevance logistique et terrestre. L'objectif de cette redevance, c'est de réhabiliter le rail entre Kinshasa et Matadi, et réhabiliter ou équiper les ports de Matadi et de Boma. Pour chaque conteneur qui entre, il y a un montant qui sera payé par l'importateur et ce montant sera rétrocédé à l'ONATRA. De 2012 jusqu'en 2017 ou 2018, il y a à peu près plus de 50 millions de dollars. Mais, messieurs les journalistes, est-ce que vous avez vu un seul kilomètre de rail qui a été réhabilité? Je me souviens même, on est allé présenter le chef de l'État, l'ancien chef d'État, Joseph Kabila, à la gare ici, on a peint des locomotives, on nous a dit devant la télévision que, en tout cas à partir d'aujourd'hui, n'utilisez plus les routes, la route Kinshasa-Matadi.
Vous allez utiliser le train.
Et Kabila lui-même est parti dans ce train-là, de Kinshasa à Matadi. Mais en revenant, les trains sont tombés en faillite.
Donc c'était du saupoudrage.
Je pense.
Voilà. Donc, voilà,
à part cet argent, jusqu'aujourd'hui, argent existe. À part ça, il y a la SNCC. La SNCC était en faillite. Avec la réforme des entreprises publiques, la Banque mondiale vient en appui pour effectivement accroître, pour permettre à ce que la SNCC soit performante. Il va injecter plus de 435 millions de dollars pour réhabiliter les rails, acheter des locomotives, payer les arriérés des agents, former les agents, tout un grand projet.
Oui.
Et en 2013 ou 2014, le premier ministre Matata, avec son ministre des Transports, ils vont faire toute une cérémonie à Lubumbashi pour inaugurer les locomotives. C'est passé à la télévision. Aujourd'hui, les locomotives sont à la SNCC. Elles ne roulent même pas.
Vous avez également parlé de la fibre optique, vous avez parlé des Lego Pass que nous payons à l'aéroport.
La fibre optique est toujours en 2012. Il y a une commission interministérielle, une commission parlementaire plutôt, conduite par l'ancien député, l'honorable Mayobo. Il y avait un débat houlé au niveau du Parlement, où on accuse qu'il y a eu des malfaçons. Et aujourd'hui, la fibre optique ne marche pas. Alors que la commission Mayobo a même dit, nous avions sous-estimé, nous avions dit 25 millions, mais dans les rapports de la commission Mayobo, on dit 70 millions de dollars.
Oui, mais on n'a toujours pas la connexion Internet à haut débit.
Effectivement. Oui. Alors la question qu'on se pose, les responsables de 2012, 2013, 2014, 2015, est-ce qu'ils peuvent venir nous dire quel a été le problème?
Mais par rapport au GoPass.
Et au GoPass aussi, vous vous souvenez, non? Toujours en 2009 comme ça, il y a eu un débat au Parlement. Pour dire que l'argent de GoPass se trouvait déjà dans un compte en Afrique du Sud.
C'est 50 dollars pour les vols au niveau international.
50 pour le vol international, 10 dollars pour le vol national. L'argent s'est retrouvé en Afrique du Sud. Comment? Il y a même des enquêtes. Il y a même un dossier judiciaire qui a été ouvert au parquet général près de la cour d'appel de Matete. Mais le dossier restait lettre morte. Jusqu'aujourd'hui, si vous partez à Kisangani, si vous partez à Mbujimayi, il y a eu un vol de Ethiopian Airlines. Sur Mbujimayi, on a fermé pourquoi? Parce que les infrastructures aéroportuaires sont en mauvais état. Vous partez à Kisangani, mauvais état. Mais où va l'argent du GoPass? Nous avons évalué entre 12 millions à 15 millions par an. Depuis 2009 jusqu'aujourd'hui, c'est combien?
12 à 15 millions par an.
Effectivement. Jusqu'aujourd'hui, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, c'est comment?
Vous avez aussi parlé de l'acquisition des machines à voter.
Effectivement, ça coulait. Donc, vous vous souvenez, non? Il n'y a pas très longtemps.
Oui.
La CENI, jusqu'à aujourd'hui, ne peut pas nous dire combien est-ce qu'ils ont acheté les machines à voter. Mais les experts nous disent qu'une machine à voter coûtait $400 à 450.
Une seule machine.
Une seule machine. Bon, tirez-vous en compte.
Voilà, on va déjà accueillir les auditeurs qui sont
en ligne. Chers amis, oui. Ce projet-là devrait booster l'économie. Ce projet-là devrait créer de l'emploi.
Ça devrait améliorer les conditions de vie.
Effectivement, tant soit peu, ça devrait améliorer quelque chose. Mais, prenez Bukangalonzo par exemple. On est parti, même avec les chefs de l'État, pour inaugurer. Aujourd'hui, les gestionnaires de Bukangalonzo et les Sud-Africains, ils ont porté plainte. Et nous, l'ICOCO, nous avions eu un rapport d'audit diligenté par les ministres des Finances où on accusait les gestionnaires en complicité avec des politiciens de surfacturer les équipements achetés. On s'est donné des marchés de gré à gré à des amis, on a surfacturé. Personne aujourd'hui ne peut dire pourquoi Bukangalonzo. Nous avons un rapport d'audit. Nous l'avons envoyé auprès du procureur général, près de la Cour de cassation. Jusqu'à aujourd'hui, les enquêtes n'avancent pas. Pourquoi? Parce que des politiciens sont impliqués.
Voilà, comment lutter efficacement contre la corruption en République démocratique du Congo? Nous avons trois auditeurs en ligne. Evelyne nous appelle des Kanangal, Adolphe est à Kalemi et Marcel nous appelle des Kolwezi. On va accueillir Evelyne des Kananga. Bonjour. Et quelle est votre préoccupation? Bonjour Evelyne. Evelyne, vous êtes à Kananga, bonjour. Voilà, elle n'est pas là, elle va certainement nous rappeler. Adolphe Dekalemi, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur les journalistes.
Mais quelle est votre préoccupation par rapport à cette campagne de lutte contre la corruption?
Oui, merci beaucoup pour la parole à donner. Je salue également notre invité sur le plateau. Et avant de poser mes questions, je voudrais tout d'abord relater certains faits. Et je veux me baser sur le milieu universitaire. Actuellement, monsieur le journaliste, vous allez constater qu'il y a une certaine forme de corruption qui se passe sous coulisses et les gens ne se rendent pas compte. Aujourd'hui, vous allez voir, lors de l'affichage des résultats des fins et d'année académique, les administratifs cachent les résultats ou les coachs de certains étudiants. Et que par après, ils demandent maintenant les frais pour introduire les recours et afficher maintenant les résultats après. Alors, je me reposer maintenant la question à notre invité. Est-ce que ça, ce n'est pas aussi une corruption? Et si c'est une corruption, pourquoi ne pas sanctionner aussi et aujourd'hui les administratifs ou les personnels académiques qui sont en train de favoriser cette fraude-là? Et une autre préoccupation, ça fait... deux ans et aujourd'hui que je suis chef consulat des étudiants, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains enseignants qui viennent dans l'auditoire, ils enseignent et après, ils interrogent. Et par après, ils vont faire échouer tous les étudiants pour recourir maintenant au chef consulat pour vous dire que non, il faut me demander une somme d'argent et je vais faire passer ou faire réussir tous les étudiants. Maintenant, je voudrais poser la question à notre invité. Les étudiants qui, à présent, sont victimes d'une telle corruption, pensez-vous à l'avenir, quand ils seront aussi gestionnaires, ne vont-ils pas aussi procéder à une telle corruption?
Merci. On va accueillir Marcel de Kolwezi. Bonjour. Marcel, vous êtes à Kolwezi. Bonjour. Il n'est plus en ligne, il va certainement nous rappeler. Monsieur Ernest Impareo, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup, monsieur Adolphe de Kalemi. Effectivement, le fait qu'on cache les résultats, c'est pour quel objectif? C'est pour vous soutirer un peu d'argent. Mmh. Or, ceux qui soutirent l'argent, ils ne le soutirent pas honnêtement. Ils le soutirent frauduleusement. Effectivement, c'est un fait de corruption. Et je pense que les étudiants, vous devriez vous regrouper en collectif et saisir le comité de gestion de cette université-là. Si, au niveau du comité de gestion, il n'y a pas de solution, à ce moment-là, vous saisissez le gouverneur ou le ministre en charge de l'enseignement supérieur et universitaire. Mais toutefois, lorsque vous saisissez, vous nous réservez une copie, à ce moment-là, nous pouvons alerter, que ce soit le ministre ici, ou vous saisissez vos députés qui viennent de votre circonscription électorale. C'est à travers ces députés-là qu'ils peuvent interpeller les ministres, et les ministres doivent interpeller les chefs, les gestionnaires de ces universités qui s'adonnent à ce genre de pratiques. En ce qui concerne effectivement les résultats, c'est la même procédure, le même processus. Il faut toujours alerter le comité de gestion, et le comité de gestion, s'il ne réagit pas, vous alertez les ministres en nous réservant une copie, en nous informant. Nous aussi, nous pouvons interpeller les ministres via les députés de la circonscription de votre province. S'il y a des députés en vacances électorales à Calémie, vous les contactez, vous leur posez les problèmes, ils viendront ici, ils vont interpeller le ministre de l'enseignement supérieur, et le ministre pourra interpeller le comité de gestion des universités. Mais nous reconnaissons effectivement que dans le secteur universitaire, il y a pas mal de problèmes, et ces problèmes, je pense que nous allons demander aux étudiants de se regrouper en collectif, de se regrouper en comité des étudiants pour commencer à dénoncer ce genre de pratiques.
Voilà, donc vous avez recensé au moins 13 projets. Il y a plusieurs projets, mais il y en a 13 que vous avez pu recenser, et vous demandez aux gestionnaires des projets-là, de ces différents projets-là, de venir se justifier auprès du Parlement. Parlons par exemple de la réhabilitation du Palais du Peuple. Vous avez également parlé de cela.
Effectivement, comme vous le savez, avant la francophonie, en 2010, si je ne me trompe pas, en 2010, il y avait la francophonie ici à Kinshasa.
Oui.
Ils ont réhabilité les projets, ce n'est pas les palais du peuple, on dit le projet de réhabilitation de l'esplanade du palais du peuple. C'est ce qui est écrit.
D'accord.
Alors, ils ont réhabilité, là où on a fait la réunion des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, mais ce qui nous a tiqué, ils ont consommé plus de 22 millions de dollars. Alors, nous nous sommes dit, 22 millions de dollars, c'est tout un bâtiment comme le palais du peuple. Alors, nous demandons aux gens qui ont fait ces travaux qu'ils viennent nous dire comment est-ce qu'ils ont utilisé 22 millions.
22 millions de dollars.
22 millions. Il y a la route Lutendele, toujours dans les contrats chinois. Ou, si vous lisez les rapports ITIE 2010, toutes ces informations-là sont là-dedans. Les rapports ITIE 2010. C'est bien écrit. Il y a même un projet pour acquisition des panneaux solaires pour 11 millions de dollars. Les 11, on n'a jamais vu les panneaux solaires.
Et alors, c'est le projet de construction des 1000 écoles par an.
Effectivement. Les constructions, ils ont commencé à construire. Ils ont construit 58% des écoles, mais ils ont dépensé plus de 139 millions de dollars. Comme il n'y a jamais eu de contrôle, qu'est-ce qui a été fait pour le reste des écoles? C'est ça la question que nous posons. Donc, les gestionnaires doivent venir nous dire comment est-ce que... Parce que dans la construction des écoles, on a donné des marchés aux hommes politiques. On a donné des marchés aux amis et aux frères. Nous avons toute une liste.
Les hommes politiques qui créent rapidement leur société et puis...
Nous avons toute une liste.
Qui gagnent les marchés.
Qui gagnent les marchés. Nous, on a donné des marchés aux hommes politiques. Alors, est-ce que c'est normal ça?
Voilà, on va accueillir deux autres auditeurs, Fiston de Colosie et Jules Niemboué de Lubumbashi. Fiston, bonjour. Fiston, vous êtes à Colosie, bonjour. Il n'est pas là. Jules Niemboué est à Lubumbashi. Bonjour.
Alors bonjour, je dis bonjour aux chers invités.
Oui, quelle est votre question par rapport à cette thématique?
Ok, j'ai deux petites questions à poser à notre invité. Je voulais savoir comment la LICOPO fait pour entrer en possession d'un dossier d'une institution quelconque, tel que au niveau de l'enseignement, pour que la LICOPO s'intéresse de cette institution, laquelle qu'elle fait. Et aussi, la Banque mondiale, le projet de la Banque mondiale qui était pour réhabiliter la SNCC, je ne sais pas, payer les têtes de locomotives telles qu'il a relaté d'abord, si la tôt, je ne sais pas. Mais est-ce que la Banque mondiale avait arrêté ce projet-là ou bien elle l'avait appliqué? Parce qu'il n'y a rien qui s'était réalisé. Moi, je suis à Lubumbashi, je n'ai rien vécu. D'ailleurs, avec l'arrivée des locomotives et Madata Ponendo, on a connu des pires, des déraillements qu'on n'a jamais vécu, des accidents impossibles. Je ne sais pas si la Banque mondiale avait arrêté ce projet ou bien il y a quelque chose qui s'est fait après. Merci et bonjour.
Bien, Omer depuis Arou, bonjour. Omer, vous êtes en ligne depuis Arou. Voilà, il n'est plus là, il y a quelques soucis aujourd'hui avec les lignes téléphoniques. Monsieur Ernest, qu'est-ce que vous pouvez dire à Julien Boye de Lumbashi?
Effectivement, comment nous faisons pour entrer en contact? Nous avons beaucoup de partenaires, nous avons beaucoup de membres qui sont dans les institutions et ce sont ces membres-là qui nous donnent des informations.
Et vous avez même un numéro de téléphone que vous avez mis en place. Les gens peuvent vous appeler à tout moment pour dénoncer des cas de corruption.
Effectivement, c'est sur WhatsApp, sur Facebook, ils peuvent nous contacter par email, ils peuvent nous contacter. Pour la SNCC, le projet est déjà fini. Le montant global pour la SNCC était de 435 millions de dollars. Je vous dis 435 millions de dollars. Il devrait réhabiliter plus de 200 km de rails. Bon. Il devrait acheter des locomotives. Moi-même, j'ai rencontré. Ils avaient même créé un organisme, une entreprise qui est venue à Lubumbashi, qui était dirigée par le fils de l'ancien DG de la régie des eaux, le fils de Tchongo. Une entreprise belge qui est venue à Lubumbashi pour relancer la SNCC. Aujourd'hui où je vous parle, la SNCC n'a pas été relancée. Alors la question qu'on se pose, qu'est-ce que les 435 millions de dollars a fait? Parce que comme M. Gilles venait de le dire, à Lubumbashi...
Beaucoup de fonds, mais il n'y a pas de résultats.
Effectivement, vous voyez 435. C'est comme ça que nous interpellons la banque ici, la Banque mondiale ici, qui vient nous dire... Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent? 435 millions. C'est les demi d'un milliard.
Englouti dans un projet, mais il n'y a aucun résultat.
Là, Gilles vient de le dire, non? Il n'y a pas. Les trains là, les trains que Matata a cités là, ça se trouve toujours là-bas. Donc, le projet est déjà clôturé. Nous demandons des comptes. Nous allons sensibiliser les partenaires qui sont membres du conseil d'administration de la Banque mondiale pour qu'ils viennent nous dire où sont les 435 millions. Parce que nous là, les gens de Lubumbashi et nous, les gens du Kasai qui doivent être des bénéficiaires de la SNCC, les gens du Nord Katanga, les gens de Kindu qui sont des bénéficiaires de la SNCC, ils sont dans l'enclavement total. Pourquoi? Parce que les 435 millions n'ont servi absolument à rien.
Alors comment est-ce que la Likoko compte mener ces... Vous avez identifié un certain nombre de projets. Alors comment comptez-vous mener cette campagne de lutte anticorruption?
Nous sommes déjà en train de mener la campagne. Nous attendons que le Parlement puisse rentrer en session extraordinaire. Nous allons les approcher. Nous allons distribuer notre document pour que les parlementaires mettent en place des commissions parlementaires afin qu'on interpelle tous ces mondes-là. Qui viennent dire, ceux qui ont bien géré, nous allons les acclamer. Nous allons encore publier ceux qui ont bien géré. Et ceux qui ont mal géré, ils doivent répondre de leurs actes. Mais nous, là, nous voudrions que les citoyens congolais puissent savoir comment est-ce que tous ces projets ont été gérés. Vous vous souvenez, Bukangalonzo, par exemple. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit ici? On a même ouvert des points de vente, Bukangalonzo. Vous les voyez encore en ville de Kinshasa. Tous ces points de vente sont déjà fermés. Parce que Bukangalonzo, aujourd'hui, on nous a dit d'ailleurs qu'ils sont en train de voler les matériels. L'entreprise sud-africaine est partie se plaindre contre la RDC. Donc, ceux qui volent viennent se plaindre pour être des victimes. Ils ont mal géré. Nous avons tout un rapport de Ernest & Young qui spécifie très, très, très bien où il y a eu des marchés de gré à gré, où on a surfacturé des équipements, où la gestion n'était pas mauvaise. Donc, plein, plein de problèmes. Et c'est plus de 150 millions engloutis. Vous vous souvenez, 150 millions, c'est combien d'écoles? 150 millions, c'est combien d'équipements didactiques pour les enfants? 150 millions, c'est combien de médicaments? 150 millions, c'est combien de tonnes de riz? Donc, chers amis, si nous ne nous réveillons pas, nous allons tous mourir dans la pauvreté et les politiciens vont en train de s'enrichir illégalement.
On va accueillir Jonas de Kananga. Bonjour, Jonas.
Bonjour, M. Jody Daniel Kassava. Bonjour à l'invité, le secrétaire de l'Alicoco.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Par rapport à la thématique du jour que nous sommes en train de saluer, moi, je ne voudrais pas aller dans tous les détails du monde, parce que si chaque auditeur se mettait à donner les preuves, le détail sur la corruption, sur la forme de corruption...
Il y en a tout plein.
L'émission ne pourra pas peut-être... Donc, on va aller au-delà du temps réglementaire. Alors... Moi, je vais proposer ceci. Nous connaissons les formes de corruption. Nous connaissons les gens qui sont corruptibles et les corrompus. Et nous connaissons comment ça évolue dans notre pays. C'était déjà, je dirais, c'est comme un virus qui a atteint une fois beaucoup de Congolais et dont la guérison nécessite encore beaucoup de stratégies et bien que mollo mollo. C'est pourquoi moi je vais proposer ceci. Essayons de remettre la lutte efficace contre la corruption à trois personnels. Le premier personnel, c'est la famille. Le deuxième personnel, c'est l'église et puis l'école. Donc, en famille, d'ores et déjà, les parents peuvent déjà commencer à éveiller la conscience de leurs enfants. À partir même des jeux, de ce qu'ils font, à partir même de la nourriture, quand tel enfant essaie de corrompre, par exemple, voilà, les parents interviennent. C'est que c'est la corruption, c'est mauvais, c'est punissable. Et à l'église, les pasteurs peuvent toujours éveiller la conscience collective des peuples congolais, avec tous les exemples du monde, afin que pour amener les gens à se convertir. Et à l'école, il faudrait que notre système de l'éducation puisse encore être revu, qu'on puisse insérer les cours de lutte contre la corruption
dans les cursus scolaires.
Oui, oui, avec des manuels. Il y a par exemple un petit manuel que j'ai vu autre, lutte contre la corruption, qui avait été édité par la CENCO. Donc si on multiplie des choses comme ça, des documents comme ça, avec le travail de Titan que la radio 4 a toujours abattu, je pense que nous pouvons arriver à changer la donne. Parce que aujourd'hui, on dit que les jeunes, c'est l'espoir de demain. Non, moi je dis que c'est faux. Les jeunes, c'est l'espoir d'aujourd'hui. Beaucoup de jeunes ont déjà appris à corrompre et à être corrompus. Ils sont en train de vivre avec les politiciens aujourd'hui. Quand la plupart des politiciens viennent pour battre campagne, ce sont ces jeunes-là qui sont en train de corrompre. Ce sont ces jeunes-là qui les envoient vers d'autres jeunes pour les corrompre. Donc, si nous commençons nous participons tous à une sorte d'éveil de conscience collective, je pense que nous allons changer tant soit peu la corruption, parce que c'est déjà une maladie, une épidémie comme Ebola, tout ça, qu'il faut
extirper. D'accord. Merci Jonas. On va accueillir Jérémy Mwamba de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, et bonjour également à notre invité. Je pense que la pertinence de ce sujet vraiment vaut son pesant d'or. Je pense que la corruption, on en parle encore et toujours, mais rien de concret vraiment jusque là, bien évidemment, ne raconte pas l'assentiment du Congo, tel que le veut l'actuel chef de l'État en rapport avec l'un des axes tracés, dont notamment, bien sûr, la fameuse question dans la lutte contre la corruption. Il est évident, M. Jody, de dire que cet organe est là peut-être pour la figuration, ça c'est le cas de le dire, seulement parce que il sera impuissant d'agir et de réagir face à la classe de protéger, à la classe de soi-disant protéger, laquelle classe que nous autres sommes venus accompagner dans ce pays. Alors, lors de nos précédentes interventions, j'ai eu à le dire qu'il fallait vraiment tout refaire dans ce pays, parce que vraiment il faut qu'on attrape le temps, et c'est le cas de le dire, parce que à commencer par l'école, parce qu'on dit souvent plus loin que tel père, tel fils, donc l'école même qui forme des gens pour diriger ce pays, sont ceux-là qui organisent la corruption à grande échelle, Monsieur Jody. Je vous donne un témoignage vivant. Moi, j'étais quelque part dans une des universités, j'ai vu réellement les étudiants qui souffrent, vous n'avez pas idée, pour payer les frais académiques, ils doivent donner un petit rien pour pouvoir avoir l'accès seulement de payer les frais académiques. C'est inacceptable dans un pays comme le nôtre. Ça ne va pas, Monsieur Jody. Deuxièmement, je pense qu'il revient au jour d'aujourd'hui. Il fallait que les chefs de l'État s'activent donc avec grande détermination pour lutter hors d'état de nuire ces fléaux qui gangrènent tout l'environnement vraiment du pays et voire même à commencer du sommet jusqu'à la basse classe. Sinon, tout le tableau est totalement sombre, vous ne pouvez pas comprendre. Je vais vous donner aussi un deuxième exemple vivant. Je suis ici à Lubumbashi. Et il y a une avenue qu'on appelle du marché qui vient donc du boulevard Katouba jusqu'à l'avenue du marché là. Cette avenue, on a payé, on a donné de l'argent, je ne sais pas, pour que cette avenue-là soit vraiment réceptionnée. C'est une avenue qui débouche vers la Jétamine et vers la ville. Vraiment, cette avenue-là, on a beaucoup donné de l'argent, mais jamais aucun acteur politique ne s'est préoccupé de ce truc. J'en appelle également le gouverneur qui vient d'arriver, Kiaboula, de voir ce cas pour voir la traçabilité, d'où est canalisé ce fonds-là.
Ce fonds-là pour...
Vraiment... Et puis, ça, c'est aussi il y a l'aspect de l'éducation. Et quand vous entrez même dans les églises, au moment des élections, même les hommes de Dieu qui sont censés prêcher par de beaux exemples, ils sont corrompus à grande échelle pour pouvoir, je ne sais pas, qui vendre, je ne sais pas, acheter un droit de vote aux enfants de Dieu. Je pense
d'accord.
que vraiment tout est à refaire dans ce pays.
Merci.
Sinon, c'est alarmant et
oui.
vraiment décevant.
Merci à Jérémy Mwamba de Lumbashi. Nous parlons de la lutte contre la corruption. Madame Evelyne, vous êtes à Kananga. Bonjour. Elle n'est plus là. On va accueillir Adolphe de Kalemi. Bonjour. Adolphe, vous êtes à Kalemi. Bonjour. Quelle est votre préoccupation?
Oui, bonjour. Oui, ma préoccupation est la suivante, messieurs les journalistes. Je m'attaque toujours sur l'aspect éducatif. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, il y a certains chefs d'établissement qui détruisent l'éducation des enfants seulement. Et vous allez voir qu'il y a ces chefs d'établissement qui corrompent, qui donnent de l'argent au niveau supérieur. Il y a certains qui quittent même la province pour se rendre à Kinshasa, pour donner de l'argent pour que leurs finalistes réussissent en masse. Et vous allez trouver ici sur Maniema, il y a un système qu'on appelle Kanyabayonga, et ici, dans notre province, donc il y a des choses comme ça. Alors, comment lutter contre cette fraude-là? Parce que ça favorise bien, bien sûr, la réussite. Mais par après, vous allez vous rendre compte, les finalistes d'aujourd'hui qui ne savent même pas lire, qui ne savent pas écrire, tout ça, et ce sont les conséquences des aspects qui découlent de cette corruption-là. Merci beaucoup.
Bien, merci. Alors, M. Ernest Impareo, vous avez suivi les différents auditeurs qui se plaignent par rapport à cette situation. Certains proposent qu'il faut commencer par la famille, les églises, ainsi que les écoles doivent être impliquées dans la lutte contre la corruption. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Oui, c'est une des pistes, parce que la prévention, c'est la sensibilisation, l'éducation, la mobilisation des citoyens, des populations. Ça, c'est une des pistes. Et à côté de cette sensibilisation, on doit avoir des mesures, des sanctions sévères, comme ce qu'on fait en Chine. En Chine, on parle les gens publiquement, si quelqu'un a volé. Sous Kabila le Père, on avait vu des gens en prison. Et ça s'est réduit un peu. C'est à la mort de Kabila que les choses ont encore recommencé. Donc
l'impunité favorise la corruption à grande
échelle. Effectivement. Et c'est comme ça que nous, au niveau de la LICOCO, nous disons, oui, il faut... l'éducation, mais à côté de l'éducation, il faut le bâton. Pour, effectivement, et pour arriver à cela, il faut une volonté politique. Et pour amener la volonté politique au point de vue politique, c'est la pression populaire qui doit s'exercer. Nous devons déjà dire à Tshisekedi aujourd'hui, il est encore à la première année de sa mandature, que nous, Congolais, là, nous voulons qu'il lutte contre la corruption. Et il y a des cas que nous les avons déjà envoyé.
Quelqu'un a parlé tout à l'heure là des protégés. Il y a des gens, on dit que les loups ne se mangent pas entre eux. Certaines personnes impliquées dans la corruption et ceux qui sont censés les punir, peut-être qu'il y a, les gens se protègent.
Effectivement, c'est ce que les Congolais doivent dire. Ils ne doivent pas avoir peur de dire aux politiciens, écoutez, que ce soit les gens du FCC, que ce soit les gens du CATS qui sont au pouvoir aujourd'hui, on doit leur dire que tout ce que vous allez faire, si vous ne luttez pas contre la corruption, vous n'allez rien réussir. Nous ne devons pas avoir peur des gens à qui nous avons voté. Vous regardez un député, vous devez lui dire, Excellence, honorable, il y a tel projet, mais on ne sait pas où est parti l'argent. Ah, qui ce soit des FCC, qui ce soit des CATS, qui sont au pouvoir aujourd'hui, nous devons exercer des pressions contre eux. C'est par la pression populaire que les choses peuvent changer. Vous voyez dans d'autres sites, les gens même manifestent, parce qu'il y a la corruption.
Même dans l'élection des députés, des sénateurs, il y a toujours la corruption à
grande échelle. On doit faire pression. S'il n'y a pas de pression populaire, les politiques ne changeraient jamais. Donc, nous devons exercer ces pressions-là. Et c'est notre droit de pression pacifique. Écrire des mémos, manifester, les rencontrer, parler avec eux, dénoncer des cas. Donc, tout ça sont des pressions pour que les gens disent, écoutez, nos concitoyens ne veulent pas ça. Nos concitoyens veulent ceci, cela, ainsi de suite. Donc, nous sommes encore à la première année de Tshisekedi. Nous devons faire pression pour qu'ils sentent que les Congolais veulent la bonne gouvernance. Les Congolais
la redevabilité.
Les Congolais veulent la redevabilité. Les Congolais veulent la transparence. Et les Congolais veulent la participation. Lorsqu'on est en train de construire une route, nous devons être impliqués pour savoir comment on a sélectionné l'entreprise, combien elle a été payée, est-ce que l'entreprise n'a pas donné des commissions retour. Ce sont des questions que les citoyens doivent poser. Mmh. Est-ce que les sortes moutons là qu'on voit, pourquoi ça traîne? Est-ce qu'on vous a tout payé? Est-ce qu'on ne vous a pas exigé des commissions retour? Donc les citoyens doivent poser
impliquer les citoyens même dans l'élaboration des budgets.
Effectivement.
C'est qu'on appelle les budgets participatifs.
C'est ça, pour que nous suivions comment est-ce que nous allons gérer l'argent. Donc nous devons être impliqués dans tout. Et nous devons dénoncer avec des évidences. On ne dénonce pas sans évidence. Comme nous le disons, je vous dis par exemple la SNCC ou le Bukangalo, c'est un rapport de Ernest Ndiang, ce n'est pas l'ICOCO. Et le rapport est clair. Le rapport dit très très bien qu'il y a eu surfacturation des biens. Une machine qui coûte 50 000, on l'achète à 100 000. On donne des marchés entre les entreprises. Les entreprises mères qui profitent des marchés des entreprises, des filiales qui sont ici. Donc tout cela doit être dénoncé et demander à ce que ces gens rendent compte et soient sanctionnés.
On va accueillir deux autres auditeurs. Jiresse Maka de Bandonouville et Kachai de Kanyoka. Comment lutter efficacement contre la corruption? Jiresse, bonjour.
Bonjour mon frère.
Quelle est votre question?
Oui. La question est d'abord c'est une contribution. Moi je pense que la meilleure façon de pouvoir lutter contre la corruption consiste à pouvoir investir dans la jeunesse. Mon frère, en RDC, la corruption a pris des dimensions inquiétantes. Vous savez que au niveau de l'éducation, on peut attendre de tout le monde de la corruption. Mais sauf de l'enseignant de la cours de religion pour les primaires et les secondaires, et sauf l'enseignant plutôt des enseignants du cours de l'édicite. Mais curieusement, ces deux enseignants sont corrompus et sont corruptibles. Donc, c'est ce qui est vraiment regrettable. Donc, je sais que la lutte contre la corruption en RDC, c'est une lutte de longue haleine. Mais moi, j'encourage l'ICOCO à ne pas baisser les bras. Merci beaucoup.
Merci, Kachai de Kanyoka. Bonjour.
Je dis Daniel Kachama et bonjour à l'invité.
Quelle est votre question, Kachai?
Merci, Jody, Daniel Kachama. Un petit parcours par rapport à ce sujet, monsieur Jody. Vous savez, d'abord, c'est un problème de la sanction. Depuis que la RDC est la RDC, les lois de la République sont faites pour les faibles et paisibles citoyens que nous sommes. Il y a du mal à infliger des sanctions à l'endroit de ceux qui s'appellent chouchous du pouvoir. Parce que eux, là, comme ils ont les pouvoirs, il y a les rapports de force, vous ne pouvez pas les traîner devant l'instance judiciaire. Pourquoi? Parce que les moyens financiers que vous détenez font défaut. Monsieur Jody, les problèmes de la corruption. Maintenant, là, je ne sais pas. Parce qu'on nous parle de dénoncer à tout moment. Le temps de discussion est passé. Il nous faut maintenant des actes. Car si nous ne nous mettons pas à la reconstruction de ce pays qui est le nôtre, nous allons tomber dans les erreurs du passé. Personne ne viendra le faire à notre place. Ici à Kananga, monsieur Jody, à l'année 2011-2012, parce que l'invité l'a souligné, des tracteurs ont été donnés pour faire des champs ici, afin qu'il ne manque pas de biens de première nécessité. Monsieur Jody, pour que Kananga soit servi en maïs, en manioc, il faut que les trains descendent jusqu'à Mouek, jusqu'à Ilebo. C'est déjà une autre province. Mais pour que les champs soient faits ici, c'est un problème. Des tracteurs qui ont été donnés là, jusqu'à ce temps où nous vous parlons, aucun tracteur ne se laisse voir sur la ville. Celui qui avait même pris le tracteur n'est pas identifié. Et puis c'est resté seulement comme ça. Je salue les efforts de l'actuel gouverneur Martin Kabuya, qui a initié un contrôle de tous ces tracteurs-là, pour savoir qui avait pris. Et qui a fait quoi avec les tracteurs?
D'accord. Quelle est la question que vous adressez à l'invité?
Oui, monsieur Jody. Pourquoi l'invité ne fait pas les plaidoyers? Parce que la rentrée scolaire, c'est d'ici là. Pour que les cours de la corruption soient insérés dans le programme national de l'enseignement. Ça, c'est un. De deux, l'homme doit être formé. Car le former, c'est l'aider à prendre des bonnes décisions. Condamner tout le monde, parce que maintenant, là, la corruption est généralisée. On ne sait pas qui est arrêté et qui n'est pas arrêté. Tout le monde est impliqué dans la corruption, même à la basse classe. On va arrêter toute la République et mettre dans la prison. Qu'ils saisissent déjà les procureurs.
Oui.
Pour que les procureurs puissent commencer à diligenter les poursuites. Le Trésor américain, quand il a cité certains noms de personnes impliquées dans la corruption, on a cité nommément. Mais ici, on dénonce. On n'a pas cité le nom de quelqu'un. Vous pensez que le procureur général pourrait venir jusqu'ici à Kanyoka, arrêter Kachaï parce qu'il a corrompu, parce qu'il a été corrompu? Merci beaucoup.
Bien, on va accueillir Barthélémy de Lumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Je dis...
Quelle est votre question?
Pour des raisons de sécurité, j'ai essayé de masquer mon nom. Je suis magistrat.
Oui.
Et je me dis ceci. Pour que la corruption puisse cesser dans ce pays, il faut que les gens aient d'abord du travail et bien rémunérés. Monsieur Jedi, je me pose la question. Hier, je suivais Monsieur Georges Kapamba dans les dossiers de sociétés de communication.
Mm-hmm.
Un magistrat qui est payé à moins de $1,000. Et les sociétés de communication ont beaucoup d'argent. Vous pensez que quelqu'un qui a moins de $1,000, on l'amène 5 000 ou 6 000 $. Vous pensez quoi? Il va laisser l'argent? Dire la justice? Non. Deuxièmement, monsieur, je dis, lui-même l'invité qui est là, je ne sais pas, il gagne combien. Ce sont des associations sans but lucratif. Ce ministre-là, dont il est en train de parler, s'il lui tendait 50 000, 100 000 $, il va fléchir. Non, monsieur Jeudi. Il faut d'abord commencer à toucher ce qui est essentiel. C'est-à-dire que les gouvernements donnent du travail aux gens,
oui,
et que les gens soient bien rémunérés. S'il n'y a pas une bonne rémunération, monsieur Jeudi, vous parlerez de la corruption jusqu'à ce que le monde ici, jusqu'à ce que le Seigneur viendra, la corruption va continuer. Les histoires de Bukangalonzo, moi j'ai mon petit frère. J'ai mon petit frère qui a donné l'argent. On vous dit, non, écoutez, on est en train de recruter. Il faut d'abord $15, $20. Vous donnez. Vous n'avez pas encore eu du travail. Vous donnez l'argent. Vous pensez quand les jours on va vous embaucher, vous n'allez pas récupérer vos $15. Hein? Vous allez récupérer vos $15 peut-être en vendant les maïs, en volant les maïs et vendre. Moi, je préfère que je suggère que les Congolais et du travail et qui soit bien rémunéré, et vous verrez que la corruption elle-même va disparaître. Voilà.
Merci. Monsieur Ernest, un pareil.
Oui, merci beaucoup. Je commence par le magistrat qui a caché son nom. Si vous regardez très bien, les plus grands auteurs de la corruption, ce sont des gens qui ont des gros salaires. Les gens qui ont Bukangalonzo, par exemple, qui ont fait faillite, qui ont mal géré Bukangalonzo, ce ne sont pas des petites personnes qui touchent $10, $20.
Et donc, être bien payé ne résout pas les problèmes.
Non, c'est un problème d'intégrité, c'est un problème d'éthique. C'est là où ceux qui prônent qui est l'éducation, la sensibilisation, ils ont raison. C'est là où les gens qui disent qu'il faut introduire des cours de corruption, ils ont raison.
Il dit même, vous, aujourd'hui, si un ministre vous tend $100,000, est-ce que vous n'allez pas réfléchir?
En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ça fait plus de 10 ans qu'on existe. Nous avons eu des gens qui nous ont tendu beaucoup d'argent, on a refusé. C'est un problème
d'intégrité.
Intégrité, un problème d'éthique. Nos arrière-grands-pères, ils n'avaient pas beaucoup d'éducation, mais ils étaient intègres. Et ils respectaient les biens collectifs. Donc ce n'est pas le fait d'être bien payé qui vous épargne.
Qui vous met à l'abri de la corruption.
Non.
C'est un problème d'éthique.
Un problème d'éthique. C'est un problème d'intégrité. Un problème de morale. Donc, tu peux toucher $50,000, mais tu es dans des... On en a vu ici. Vous vous souvenez que les Américains ont sanctionné un fonds souverain où ils ont dit que les fonds souverains ont corrompu les officiels congolais dans une attribution d'un titre minier. Vous voyez, ils ont attribué les officiels qui touchent plus de $10,000, ces officiels-là. Donc ce ne sont pas des gens qui touchent $50, ce ne sont pas des gens qui touchent $30, mais ce sont des gens qui touchent $10,000, $100,000. Aujourd'hui, il y a plein de cas. La redevance logistique terrestre de l'ONATRA, ce n'est pas les agents qui touchent $20, $30. Ce sont les responsables qui ont des salaires de 15 000, 20 000. Donc cet argument-là ne tient pas
debout.
Non. Pour bien lutter, oui, il faut prévenir. En éduquant, en sensibilisant, mais il faut sanctionner. Et pour sanctionner, nous devons avoir un pouvoir ou des politiques qui veulent le changement. Il faut avoir des politiciens qui ont la volonté politique. C'est par-ci, ailleurs, c'est comme ça que ça marche. Vous avez vu le Rwanda aujourd'hui. Vous partez au Rwanda, je vous dis, quel qu'il soit général, quel qu'il soit ministre, que, si tu violes la loi, si tu corromps, on t'a... Il y a un ambassadeur qui a été accusé dans un dossier en RDC, un ambassadeur du Rwanda aux États-Unis, il a été relevé de ses fonctions. Donc, c'est une volonté politique où il y a des politiciens qui veulent faire changer des choses, voilà. Qui veulent faire évoluer le pays, et je pense que ça peut pas résoudre tout, mais on va aller en diminuant petit à petit.
Le numéro par lequel les gens peuvent appeler la Licoco, pour s'il y a des cas à dénoncer.
Effectivement, si vous avez des cas à dénoncer, vous pouvez nous appeler sur 0,081
oui.
60 49 837. Nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur Facebook, Licoco RDC, sur WhatsApp avec ces numéros 81 60 49 837. Vous pouvez nous envoyer par mail, vous pouvez nous appeler, vous nous envoyez des dossiers, des cas, des exemples. Si vous avez des évidences, vous nous envoyez. Soyez sûr et certain que nous allons les traiter et les envoyer à qui de droit.
Ernest Imparairo, secrétaire exécutif de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, Licoco. Merci et à la prochaine.
Ok, merci beaucoup.